Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Géométrie sacrée tome 2 de Stéphane Cardino est un ouvrage de géométrie sacrée et de géobiologie publié chez Éditions Trajectoire en 2006. Il prolonge le premier tome, centré sur les tracés régulateurs des architectures occidentales, en élargissant l'analyse à des monuments, villes, temples et œuvres issues de cultures très diverses. Le livre ne se contente pas de décrire des formes, il cherche à montrer comment certaines constructions auraient été conçues selon des principes géométriques et énergétiques communs, liés à l'orientation, aux proportions et aux phénomènes telluriques. Son ambition est à la fois analytique et pratique, puisque l'auteur propose une méthode de lecture des lieux sacrés et des pistes pour concevoir des espaces harmonisés avec la Terre. L'ouvrage s'adresse donc à un public déjà intéressé par l'architecture sacrée, les traditions symboliques et la géobiologie, avec une forte dimension de recherche appliquée, je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une enquête sur l'universalité des tracés sacrés à travers des cultures très différentes. L'un des apports majeurs du livre est de sortir la géométrie sacrée d'un cadre strictement occidental. Stéphane Cardino met en parallèle des édifices et sites très variés, comme un amphithéâtre romain, une mosquée turque, une ville aztèque, une cathédrale gothique, un temple khmer, une ville tang, un tertre funéraire japonais ou encore les chambres de la Grande Pyramide. Cette diversité n'est pas décorative, elle sert à défendre l'idée qu'il existe des principes de composition récurrents, indépendants des civilisations et des époques. Le lecteur est ainsi invité à considérer ces monuments comme des objets de lecture structurés où l'orientation, les axes, les proportions et les alignements peuvent révéler une logique commune. Cette approche donne au livre une portée comparative rare dans ce domaine, car elle met en relation histoire de l'architecture, symbolisme et étude des formes. Le propos vise moins à classer les monuments qu'à montrer la permanence d'un langage géométrique partagé. Deuxièmement, la méthode des tracés régulateurs comme outil de lecture architecturale. Le livre repose sur l'idée que les tracés régulateurs permettent de retrouver la logique de construction d'un édifice, y compris lorsque cette logique n'est pas immédiatement visible. Cardino présente la géométrie non comme une abstraction théorique, mais comme une grille d'analyse capable de relier plans, proportions et organisations internes lieux. Cette méthode est importante car elle transforme le monument en objet vérifiable. Le lecteur ne doit pas seulement croire à une intention sacrée, il peut observer comment les lignes, rapports de mesure et correspondances structurent l'ensemble. Cela donne à l'ouvrage un caractère méthodique, presque documentaire. En ce sens, le tome 2 prolonge le premier volume en appliquant les outils géométriques à des cas plus nombreux et plus complexes. La force de cette démarche est de proposer une lecture concrète de l'architecture sacrée, où la forme devient un indice de l'intention des bâtisseurs plutôt qu'un simple effet esthétique. Troisièmement, l'articulation entre géométrie et géobiologie dans l'étude des phénomènes telluriques. Un autre axe essentiel du livre consiste à relier l'analyse formelle des monuments à l'observation des phénomènes telluriques. Cardino défend une lecture où le lieu n'est pas seulement construit, mais aussi inscrit dans un environnement énergétique qui influence son implantation et son organisation. Cette perspective rapproche la géométrie sacrée de la géobiologie, puisque l'étude des lignes, des points d'équilibre ou des orientations s'accompagne d'une attention aux qualités du site. Le livre insiste ainsi sur la manière dont les anciens bâtisseurs auraient cherché à composer avec les forces terrestres plutôt qu'à les ignorer. Même pour un lecteur sceptique sur les interprétations énergétiques, l'intérêt du propos est réel, il montre que l'architecture monumentale ne peut pas être séparée du terrain, du paysage et des contraintes symboliques liées au site. Le livre se distingue par cette tentative de relier structures visibles et dimensions invisibles, dans une logique de lecture globale du lieu. Quatrièmement, une documentation abondante fondée sur des relevés de terrain et des planches de référence. Le tome 2 se démarque aussi par son caractère très illustré et par la place donnée au travail d'observation. Les sources disponibles soulignent l'existence de nombreuses planches de référence issues de relevés géobiologiques réalisés sur plusieurs sites, ce qui donne à l'ouvrage une dimension d'archives visuelles. Cette abondance de documents n'a pas seulement une fonction pédagogique, elle cherche à étayer les correspondances géométriques avancées par l'auteur. En accumulant les exemples, Cardino construit un corpus qui permet au lecteur de comparer les cas, de suivre les démonstrations et de repérer les régularités. Cette méthode renforce la lisibilité du livre pour les lecteurs techniques, mais elle en fait aussi un ouvrage dense, exigeant et parfois difficile d'accès sans le premier tome. Ce mélange de recherche de terrain, de dessins analytiques et d'interprétations symboliques explique en grande partie la réputation du livre comme référence spécialisée dans son domaine. En dernier lieu, un livre de recherche appliqué pour comprendre et concevoir des lieux harmonisés. Au-delà de l'analyse des monuments anciens, le livre propose une finalité pratique, apprendre à utiliser ses connaissances pour créer ou comprendre des lieux énergétiques. Cette orientation le distingue de simples ouvrages de vulgarisation sur les symboles ou sur l'architecture sacrée. Cardino présente la géométrie sacrée comme un savoir opératoire, susceptible d'aider à concevoir des espaces respectant les lois de la Terre et certaines exigences de cohérence formelle. Le lecteur intéressé par la géobiologie, l'architecture symbolique ou la création d'espaces de méditation y trouvera une méthode plus qu'un répertoire d'images. L'intérêt du livre est précisément d'articuler interprétation historique et usage contemporain. Il ne se limite pas à commenter des édifices du passé, il suggère que ces principes peuvent encore inspirer des réalisations actuelles, à petite ou grande échelle. Cette dimension appliquée explique son attrait auprès des praticiens autant que des lecteurs curieux de traditions architecturales. En conclusion, Géométrie sacrée tome 2 s'adresse surtout aux lecteurs déjà familiers du premier volume, ainsi qu'aux passionnés d'architecture sacrée, de géobiologie, d'ésotérisme appliqué et d'histoire des formes. Sa principale valeur est de proposer une approche comparative très large, en reliant des monuments et traditions issues de civilisations éloignées autour d'une même logique géométrique. Le livre peut intéresser autant ceux qui cherchent une méthode d'analyse des tracés régulateurs que ceux qui s'interrogent sur le rapport entre espace construit, orientation et environnement tellurique. Sur le plan intellectuel, il offre une grille de lecture originale des grands sites sacrés. Sur le plan pratique, il suggère des pistes pour concevoir des lieux cohérents avec ses principes. Ce qui le distingue de nombreux ouvrages du même genre, c'est son ancrage dans des relevés, des planches et une volonté démonstrative, plutôt qu'une simple exposition symbolique. Son approche est dense, spécialisée et exigeante, mais c'est précisément ce qui en fait une référence pour un public averti en quête d'une géométrie sacrée pensée comme méthode d'observation et non comme seule spéculation. Si vous souhaitez soutenir Stéphane Cardino, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !